usage en bonne rhétorique, ça consiste à commencer doucement pour, comme on disait autrefois, capter la bienveillance du public. Alors, je ne sais pas si je vais faire ça tout à fait comme il faut, parce qu'en fait, j'ai le sentiment, au fond, parce que Cyril vient à la fois d'ouvrir la journée de la chlore, parce qu'il a couvert le champ, si j'ai bien entendu. Je vais pouvoir recommencer assez brutalement, assez directement, aller tout de suite au vif, sinon de mon propos et de ses enjeux, en tout cas de sa prise de position. Je me suis demandé avant de venir, parce que ce n'est pas la première fois, en ce qui me concerne, qu'il m'ait demandé de parler de ce sujet, de cette relation art et technique. Ce que je pouvais dire, que je n'avais encore pas véritablement dit, ou pas comme ça. Et en fait, j'ai pris le parti de commencer par une critique, par une position critique, concernant une certaine idée de l'art, et la façon dont cette idée s'est quand même assez fortement installée dans les esprits, les nôtres, cette idée de l'art, c'est celle que vous connaissez, qui nous est restée en mémoire sous le nom de ready-made. Et je voudrais partir de là, je voudrais analyser très rapidement, parce que le temps est quand même forcément relativement compté, quelles sont les conditions de possibilité pour que s'installe dans notre idée des possibilités artistiques quelque chose comme le ready-made. Et donc, si vous permettez, je vais entrer sans autre introduction dans le vif de cette prise de position. D'abord, je voudrais vous rappeler, vous faire remarquer qu'il aura fallu, si on regarde les choses avec un long recul historique, beaucoup de temps, beaucoup de temps, qu'on a un peu oublié, pour que on parvienne à cultiver sous le nom d'art, à avoir dans la culture l'idée d'art, à cultiver sous le nom d'art ce qu'on pourrait appeler des opérations géniales, voire, je m'intéresse beaucoup à cette expression qui figure dans des textes du XVIIIe siècle déjà, des coups de génie. Que l'art soit finalement dû essentiellement aux capacités géniales des artistes, il aura fallu du temps, beaucoup de temps, pour qu'on arrive à formuler cette position. Et ces coups de génie, ils sont supposés a priori substantiellement séparés du labeur des opérations techniques. L'idée, autrement dit, que l'art soit essentiellement quelque chose qui procède d'autre chose que d'un labeur, c'est une idée qui est désormais installée dans la culture de l'art, mais qui aura mis beaucoup de temps pour parvenir à cette installation. Cette installation, je dirais, du génie, de la génialité, au fait du faire, au fait au sommet du faire, s'est achevé sur le plan théorique avec l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot, texte qui donc sanctionne de manière particulière et pour des raisons générales qu'on peut décrypter dans les jeux de renvoi des rubriques et du lexique que valide globalement l'encyclopédie. Donc ce texte, l'encyclopédie, aura validé tout un devenir libéral du peintre. Il y a une définition très très intéressante, un peu compliquée, un peu surprenante, de ce que c'est que peindre pour les auteurs de l'encyclopédie. Et peindre, ça n'est pas faire de la peinture, c'est être capable de disposer dans son esprit d'un certain nombre de représentations. Et c'est ça qui définit substantiellement le génie. Au fond, une façon d'avoir des intuitions. Beaucoup plus, encore une fois, que participer au fait de faire. Alors cette libéralisation, il faut l'analyser Il faudrait l'analyser, il faudrait avoir le temps de faire tout un travail pour l'analyser dans le contexte historique qui a traversé des siècles de l'opposition entre les arts libéraux et les arts mécaniques. Je pense que cette opposition entre les arts libéraux et les arts mécaniques, sourdement, nous intéresse toujours. Je soutiens que ce mouvement qui a mis le génie au fait des opérations, au fait, au sommet des opérations humaines, et dont le processus d'élaboration théorique, je vous dis, s'est achevé pour moi au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe, avec la publication, par exemple, du discours préliminaire sur l'encyclopédie de D'Alembert en 1750, ou 51, je ne me souviens plus, enfin en tout cas au milieu du XVIIIe siècle. Je soutiens que cette opération, qui a abouti théoriquement dès ce moment-là, aboutit pratiquement cette fois, non pas nécessairement dans les opérations concrètement mises en place par Marcel Duchamp, c'est-à-dire dans ce qu'a fait Marcel Duchamp, dans la façon dont il explique ce qu'il a fait, mais tout de même cette montée en puissance de l'idée libérale de l'art, du génie comme fait des opérations humaines, je pense que ça aboutit pratiquement dans le ready-made, dans l'autorité acquise par le ready-made, dans la compatibilité admise par notre culture de l'art, du ready-made avec l'art, précisément. Je ne suis pas, en fait, en épicurien rhétorique, je ne suis pas en train de faire une histoire du ready-made dans l'esprit de Marcel Duchamp, et on pourrait toujours, du côté de l'histoire de l'art, dire que ce que je vais dire grossièrement est discutable, que Marcel Duchamp, c'est plus compliqué que ce que je vais dire. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de prendre les choses pour le dire avec un vocabulaire qui ne nous satisfait pas forcément par ailleurs, mais pour aller vite, prendre les choses du côté de la réception. Comment est-il possible qu'ait été reçue au nom de l'art une opération comme celle du ready-made, quelles que soient par ailleurs les intentions de Marcel Duchamp? Comment est-il possible que cette opération soit restée pour nous, installée pour nous, dans notre mémoire, dans notre culture, sous le nom d'art? Je dirais que c'est dans cette compatibilité-là, dernière augmentation connue de l'idée d'art. Il y a plusieurs idées d'art en fait qui courent l'histoire. D'ailleurs, le mot lui-même est plus complexe qu'il n'y paraît, puisque si on Cyril parlait d'Aristote tout à l'heure, c'est une question que je me suis longtemps posée, je me pose toujours d'ailleurs, qu'est-ce que le mot art traduit du grec d'Aristote? Est-ce que c'est technèque ou est-ce que c'est poiesis, par exemple? C'est compliqué. En tout cas, il y a plusieurs idées d'art, et la dernière augmentation en date, dernier mot qui fait autorité, c'est la même étymologie, la augmentation de l'autorité, on ne sait pas tout ça, mais le fait est, ça fait autorité désormais, c'est-à-dire que c'est augmenter là la capacité à recevoir sous le nom d'art, donc une nouvelle opération, si vous voulez, qui est pour l'essentiel une opération géniale, un coup de génie. Cette dernière augmentation de l'idée d'art valide dans la culture, la séparation, au fond, de longue date sans doute rendue possible par toute une série d'opérations, pour le coup, théoriques, entre l'art et le faire. Que l'art soit plus essentiellement lié au fait de faire, c'est quelque chose que nous devons, dans une certaine mesure, à la réception au nom de l'art d'une opération comme celle du ready-made. L'implication du ready-made dans la culture de l'art, et en tout cas c'est comme ça qu'elle est revenue chez un certain nombre de théoriciens américains en particulier, l'implication du ready-made dans la culture de l'art est une opération pratique, on peut dire performative. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas la chose qu'on fait, c'est ce qu'on dit de la chose qu'on fait. Ceci est de l'art, donc c'est de l'art. Si je peux faire circuler la phrase « ceci est de l'art » à propos de quoi que ce soit, tout fait, de quoi que ce soit, alors ça peut en être. C'est une opération performative. Et je pense que cette opération performative est l'ultime développement, je n'en sais rien, mais le dernier développement en date de ce que je viens d'appeler rapidement l'augmentation, petit à petit, dans notre culture, de l'acceptabilité au nom de l'art. Cette opération performative a peut-être deux caractéristiques, ou elle a deux caractéristiques au moins. D'une part, elle admet le dire comme faire, le dire, l'advenue dans la culture du ready-made, je pense, assez postérieure au fait de l'opération elle-même. Marcel Duchamp est lui-même, entre 1912 et 1917, l'essentiel est joué. Mais il y a un retour de ça dans les années 60 aux États-Unis, en même temps que s'épanouissent les thèses de Austin avec le fameux livre Quand dire, c'est faire. Donc ça, c'est l'une des caractéristiques de l'acceptation par nous du ready-made comme possibilité artistique. C'est quelque chose qui se lie de manière théorique plus générale à la justification, disons, de la performativité. Qu'en dire, c'est faire. Et la deuxième caractéristique du ready-made, pas forcément tel qu'il a été imaginé par Duchamp, je répète, mais tel qu'il a été reçu. La deuxième caractéristique du ready-made, c'est de situer l'art, vous connaissez la phrase de Duchamp, du côté des regardeurs. Mais on peut expliquer ce que ça veut dire, ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Si on rapproche, qui est mon hypothèse de travail pour ce matin, cette expression « ce sont les regardeurs qui font les tableaux » de ce que des textes plus anciens comme le discours préliminaire de l'encyclopédie de Lalambert, ce qu'il y a dans les discours préliminaires de l'encyclopédie, c'est que il y a quelque chose d'essentiel que les encyclopédistes mettent au devant des opérations des esprits humains en général, c'est le goût. Le goût. Le goût est travaillé et défini par D'Alembert comme étant l'équivalent du côté de la réception du génie. Les hommes de goût sont des hommes qui sont capables de démêler le beau de ce qui ne l'est pas. Et ils le font avec les mêmes capacités spirituelles que les hommes de génie. Donc avoir le goût, le savoir recevoir dans une certaine mesure est l'équivalent du côté de la réception du génie, du côté de la conception. Au fond, qu'est-ce que fait le ready-made de Marcel Duchamp? C'est élire des objets, avoir du goût pour tel objet ou pour telle situation, élire des objets, non pas du fer, par conséquent, non pas du fer, non pas un mode de facture qui serait substantiellement opposable à un autre, non pas une façon de faire, placer l'art dans l'élection de quelque chose, voilà ce que fait l'opération du ready-made, placer l'art essentiellement dans l'élection de quelque chose qui est déjà fait, donc pas dans le fait de faire. Mais de le placer dans une élection de quelque chose qui est déjà un résultat, qui a déjà été fait. Donc, rapporter à l'histoire des grands concepts, c'est une opération qui est de l'ordre du goût. Lui-même posé depuis le XVIIIe siècle comme étant, au fond, un équivalent du côté de la réception, je répète, de ce qu'est le génie du côté de la conception. Cette opération d'élection est désormais, nous sommes capables désormais de l'accepter, de la valider au titre de l'art. C'est une opération essentiellement verbale. Je veux dire que cette opération admet l'idée d'une verbalisation créatrice qui est capable d'augmenter par son prononcé, par le fait qu'elle soit prononcée, ceci est de l'art. Cette verbalisation est créatrice, elle est admise comme capable d'augmenter par le fait qu'elle soit prononcée la valeur d'une réalité. Donc cette roue de bicyclette, qui en tant qu'objet technique n'est qu'une roue de bicyclette, devient une œuvre d'art, c'est-à-dire acquiert une valeur qui n'est pas son fait même, qui est une valeur impliquée par une verbalisation spécifique, qui circule entre nous, performative. On pourrait dire aussi, pour ce qui me concerne, ça m'est arrivé d'écrire des textes sur cette question, et je dirais que ce serait un autre sujet de discussion, que c'est peut-être au cœur aussi de ce qu'on pourrait appeler dans un autre langage des opérations spéculatives. Spéculer, c'est augmenter la valeur de quelque chose dans un prononcé, dans un certain phrasé. Je te dis que ça vaut beaucoup plus que tu ne crois. Hein, et si je réussis à te le faire croire, j'ai mené à bien une opération spéculative. J'ai augmenté par le fait d'un discours, la valeur de ce dont je parle, du fait du fabriqué, de l'objet éventuellement dont je parle. Je pense qu'il y a un rapport entre les opérations performatives et les opérations spéculatives. Et que étudier ce rapport de façon critique aujourd'hui nous ferait peut-être beaucoup de bien, en tout cas nous aiderait à comprendre un certain nombre de phénomènes qui se passent par ailleurs dans le monde, globalement dans le monde. Mais au-delà même des intentions éventuelles ou possibles de Marcel Duchamp, est-ce que là se trouve, dans ce que je viens de dire, toute la culture, tout ce qui compte dans la culture du ready-made? L'opération, je le répète, ne procède pas de l'opposition d'un fer à un autre, par exemple de l'opposition d'un fer œuvre à celle de réaliser un produit. On ne distingue pas dans des opérations qui seraient des opérations de conduite technique. Non, le principe du ready-made réside bien dans l'élire, le fait d'élire. Il est bien dans l'effectuation d'un choix au sein d'une production, en l'occurrence une production industrielle, dont il est admis non seulement qu'elle fournit des données, mais encore que dans le registre de la fourniture du monde en biens, il n'y a plus d'adversité possible. Cette phrase un peu compliquée de ma part renvoie à une anecdote que vous connaissez peut-être, une anecdote assez connue, qu'on prête, je crois, à une visite faite entre Fernand Léger, Brancusi et Marcel Duchamp. Une exposition où il y avait à la fois d'un côté des œuvres, disons, d'art et de l'autre côté des produits industriels. Et Marcel Duchamp, voyant une hélice, dit « on ne peut rien faire de mieux ». On ne peut rien faire de mieux et c'est contemporain de l'émergence dans son esprit de l'idée du ordinaire. Et c'est ça que je veux dire. L'installation dans notre culture de l'art de quelque chose comme le ready-made est contemporain d'une position, celle de Marcel Duchamp en l'occurrence, quant à la production industrielle, qui est au fond une espèce de on pourrait dire, une espèce de position d'impuissance. On ne peut rien faire de mieux. Il est plus possible de faire autrement que sur le mode de l'industrie. Reste par conséquent à spéculer là-dessus. Alors, je sais très bien que cette analyse du ready-made est discutable. Et d'une certaine manière, je la produis de manière un peu provocatrice. Je dirais que si on accepte ces hypothèses de raisonnement, le ready-made est techniquement désarmant. Le fait que nous acceptions au titre de l'art quelque chose comme ça, au fond, signale peut-être que nous sommes désarmés par rapport à un certain nombre d'opérations techniques dominantes qu'on peut appeler les opérations de la société industrielle. Le ready-made est techniquement désarmant. Il désarme aussi, dans une certaine mesure, les artistes d'avoir à être compétents techniquement, puisque, au fond, leur compétence devient essentiellement performative ou spéculative, si j'ai clair dans mon propos. Paradoxalement, le ready-made désintéresse du faire, du fait de faire, en le glorifiant. Je prends le mot gloire dans son vieux sens, hein, de rendre transsubstantié, disons, hein, glorifier l'objet technique. C'est ça que fait, d'une certaine manière, ou qu'aura fait, d'une certaine manière, le ready-made. Glorifier l'objet technique, mais sans rien faire à la technique elle-même. Dans une position désarmée, à l'égard, ou désarmante ici d'ailleurs, à l'égard de la technique elle-même. Bien. Alors, que le ready-made se soit comme idée possible de l'art installé dans nos esprits, c'est indiscutable désormais. On peut le regretter, mais que ça se soit installé dans l'histoire de l'art, c'est indiscutable désormais. Pour autant, de fait, il n'est pas non plus discutable qu'il y ait eu et qu'il y ait toujours dans le champ des opérations susceptibles d'être dites artistiques, des résistances à tout ce mouvement de libéralisation que je viens de décrire. Je pense d'ailleurs, d'une manière générale, que si l'art a une histoire, c'est en tant qu'il fait des histoires, si vous me permettez ce genou, avoir des histoires avec quelqu'un, faire de l'histoire, dans une certaine mesure, ça suppose un désaccord. Ça suppose qu'il y ait, en tout cas, oui, du désaccord ou quelque chose comme une résistance de l'un à l'idée de l'autre. Bon, si l'art a une histoire, c'est que l'art, ou cette histoire, au fond, substantiellement, n'est peut-être rien d'autre que la résistance successive des opérations effectives des artistes aux idées qui formulent ou dominent, le cas échéant, leur pratique. Si l'art a une histoire, c'est en tant qu'il fait des histoires avec telle et telle des idées qui entendent disposer de lui, et qui, pour cette raison, entreprennent de l'ordonner et de le dominer idéalement. L'art réel, je pourrais tenir cette formule, les œuvres d'art, le fait artistique réel, dans une certaine mesure, résiste à son idéalité. Ma formule pourrait dire les œuvres d'art, ou en tout cas, il est, au nombre des œuvres d'art, beaucoup d'œuvres qui ne sont pas idéales. C'est pas idéal. Voilà. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de souligner qu'étant donné le cadrage, si vous voulez, que je viens de mentionner, la résistance des opérations artistiques à leur idée dominante n'aura pu se situer au fond, que du côté traditionnellement opposé à l'ordre libéral. Ma thèse globale, depuis que je travaille sur ces questions, c'est de dire que l'art, s'il a encore une histoire, ou si depuis que a été posé comme quelque chose, comme une sommité, depuis que les opérations d'ordre libéral, les coups de génie, les savoir et lire, dont je parlais précédemment, depuis que tout ça est apparu comme éminent, voilà. Il y a quelque chose dans l'ensemble des pratiques humaines qui résiste à ça et qui ne peut pas être pensé comme libéral. Et nous avons une ressource pour penser ce qui ne peut pas être pensé comme libéral, pour statuer quant à ce qui ne peut pas être pensé comme libéral, et c'est de se situer du côté, de l'autre côté traditionnel des arts libéraux, à savoir le mécanique, les arts mécaniques. C'est-à-dire que ce qui résiste à toute idée libérale et à toute la libéralisation de l'idée d'art que je viens d'évoquer, ce sont des opérations qui procèdent, qui se situent dans le labeur des opérations réputées mécaniques. Je signale pour les amateurs d'histoire des concepts que cette résistance possible du labeur des opérations mécaniques, elle est dès le XVIIIe siècle, repéré par Kant dans un texte qui n'est pas rien dans l'histoire de l'art et l'esthétique, la critique de la faculté de juger, et de repérer cette résistance du mécanique, du labeur mécanique, comme essentielle. Kant dit, alors que s'épanouit l'idée libérale de l'art, si vous voulez, le coup de génie, le savoir et lire, etc., dont je pense le ready-made comme une forme d'aboutissement, si vous voulez, et dès le XVIIIe siècle, un texte comme celui de Kant avertit que ça sera beaucoup plus compliqué que ça. Et qu'il y a quelque chose d'essentiel, peut-être, qui demeure du côté des opérations mécaniques. Que les positions libérales nient. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. C'est la résistance de l'art à son idéalisation dans le libéral. Par conséquent, ce qui m'intéresse, c'est le rapport de l'art aux mécaniques. Si j'essaye de penser ça depuis les plus vieux concepts que je trouve pour ça. Et c'est là que je vais donc me situer, auprès des opérations artistiques qui impliquent une dimension de mécanique. Alors vous avez peut-être besoin que je sois moins abstrait et plus concret. Je vais donner un exemple très rapide, j'y reviendrai peut-être en discussion éventuellement si le temps le permet. Si vous voulez que je dise concrètement ou un peu plus concrètement les choses, ça m'intéresse d'être auprès des photographes ou des cinéastes, en tant que les photographes et les cinéastes mènent à bien des opérations mécaniques. Ils ne peuvent pas ne pas, puisqu'ils travaillent avec des objets techniques qui s'appellent des caméras, si vous voulez, d'une manière générale, des appareils d'enregistrement, et que je voudrais, autant que je pourrais établir cette idée, que une photographie peut nous intéresser au titre de l'art lorsque précisément le photographe n'est pas libéral, n'adopte pas une position de libéralité à l'égard de sa technique, à l'égard de son appareil. Même chose pour le cinéma, etc. Certainement, il faudrait que je donne un certain nombre d'exemples. J'espère que cette indication générale suffit à rendre à peu près audible mon propos. Alors pour comprendre aujourd'hui ce que peut être cette dimension, le côté, si vous voulez, mécanique, résistant à la libéralisation de l'idée d'art, je crois que pour comprendre ça aujourd'hui, il faut revenir sur tout un progrès, sur toute une avancée, sur toute une poussée de la technicité humaine, celle qui a conduit l'humanité en général à majorer dans sa conception de la technique la notion de machine. Je suis en train de soutenir, c'est tout, croyez-moi, sauf facile, à la fois sur le plan intellectuel, pour concevoir ce que je vais essayer de vous dire, et en même temps pour le faire entendre. Et je crois qu'il faut que nous réfléchissions aujourd'hui, et je répète, c'est tout sauf facile, au fait qu'une opération machinale n'est pas nécessairement la même chose qu'une opération mécanique. Ou, pour être plus précis ou plus clair, je crois qu'il faut que nous réfléchissions aujourd'hui au fait que la dimension mécanique dont j'essaye de parler ne se dispose pas, ne s'économise pas comme le machinal peut se disposer ou s'économiser. C'est-à-dire que, si je suis peut-être plus simple, je dirais que nous sommes dominés d'une certaine manière par une idée de la technique, en tout cas aujourd'hui, c'est que la technique c'est une affaire de machine et de machination. Ma thèse, je ne peux pas vous en donner tous les éléments démonstratifs, mais ma thèse générale, ça consiste à dire que cette domination dans nos esprits de l'idée de technique par les notions de machine et de machination, elle correspond à la libéralisation dont j'ai essayé de donner une description un peu critique il y a quelques minutes. Les ingénieurs, dépositaires du génie humain, sont des hommes qui font tourner des machines. Et quand je parle d'opérations mécaniques, quand je parle des opérations mécaniques auxquelles l'art résistant à tout ça peut avoir à faire, ces opérations mécaniques ne sont pas la même chose que les opérations machinales. Je le pose comme un principe de réflexion. Par exemple, si vous voulez que je concrétise un petit peu, les opérations mécaniques, l'opération mécanique au sens que j'essaye de soutenir, ne s'approche pas en termes de rendement et de rentabilité. Une machine, c'est un objet technique qui est approchable, et peut-être même seulement approchable, qu'en termes de rendement et de rentabilité. Faire une photographie, ça n'est pas une opération qu'on peut conceptualiser dans l'ordre du rendement et de la rentabilité. Et donc, se conduire avec un appareil photo, par exemple, ce type d'objet technique, ça met en jeu les opérations mécaniques. Il y a bien des opérations mécaniques qui se trouvent au cœur de la photographie du cinéma. Ce sont des opérations mécaniques, ce ne sont pas des opérations économisables sur le mode des machines, ce ne sont pas calculables comme sont calculables des opérations machiniques. Les opérations machiniques sont deux fois calculables, elles sont calculables en termes physiques, hein, il y a des rendements d'opérations des machines, et elles sont calculables en termes économiques. Il y a des rendements au sens, ça rapporte. On peut organiser le travail de telle sorte que ça soit rentable. Voilà. Est-ce que ces critères-là, le rendement et la rentabilité, sont des critères décisifs pour décrire la conduite d'un photographe ou d'un cinéaste avec sa caméra? Réponse, à mon sens, non. Alors c'est ça que j'essaye de dire quand je dis de façon plus générale. Il faut penser qu'il y a quelque chose de mécanique qui échappe à l'économie des machines. À la façon dont, je peux vous dire aussi, peut-être vous rappeler ou vous apprendre, je pense des choses qu'on a beaucoup oubliées. Le mot économie à l'histoire, qui a magnifiquement rappelé un très très beau livre, assez difficile à lire, mais très très beau, de Giorgio Agamben, Le règne et la gloire, dans lequel il est rappelé qu'au 1er siècle de l'ère chrétienne, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, le mot oikonomia, c'est au moment où la pensée passe, la pensée dans ce cas-là, dans ses énoncés dominants, passe de la langue grecque à la langue latine. Et à ce moment-là, on traduit l'oikonomia des Grecs par le latin disposition, en s'appuyant d'ailleurs sur un certain nombre de textes de traduction pertinente. Hein. Donc on peut dire économiser, ça consiste à disposer la technique ou à disposer de la technique d'une certaine manière. Donc c'est ces vieux mots, ces vieilles connotations que j'essaie de faire résonner dans mon discours d'aujourd'hui. Machiner, c'est économiser la technique. Machiner, c'est disposer la technique. Machiner, c'est disposer de la technique. Voilà. Mais il y a des opérations de la technique elle-même qui comptent, qui sont tout simplement même possibles, et qui ne rentrent pas nécessairement dans l'ordre d'une économie de la technique, d'une disposition ordonnée de la technique. Enfin, c'est pas sûr qu'un peintre comme Paul Klee, pour reprendre ce qui était l'un des énoncés au cœur de mon propos ici même il y a 3 ans, c'est pas sûr qu'un peintre, c'est même sûr que non, qu'un peintre comme Paul Klee soit économe de sa technique picturale. Quand on regarde comment il parle, de sa façon de travailler, de son labeur, on pourrait dire que c'est assez désordonné. Voilà. Et justement, il situe son art dans une façon de ne pas ordonner son travail, c'est-à-dire de ne pas l'économiser, dans une certaine mesure. C'est ça que j'appelle, paradoxalement, et d'ailleurs en accord avec un certain nombre de textes de Paul Klee que j'ai évidemment pas le temps de ramener et de citer tous ici, c'est ça que j'appelle une opération mécanique. Avoir de l'intérêt pour ce qui, dans la technique, est mécanique sans être machinable, hein, sans entrer dans une économie des machines. On peut dire qu'une opération mécanique est une opération qui n'est pas nécessairement disposée, calculée, ou disposable et calculable éventuellement. On peut dire qu'une opération mécanique, par conséquent, s'oriente, est orientable, et même qu'elle peut s'orienter, le cas échéant, utilement. Je vais revenir sur ce mot dans quelques minutes. Peut s'orienter utilement, mais que cette orientation et cette utilité ne se fondent pas sur un calcul de profit. Voilà. Quand un photographe fait une photo, il oriente peut-être son travail d'une certaine manière, il oriente l'appareil d'une certaine manière, par exemple, il choisit de commencer par régler l'ouverture du diaphragme, puis le temps de pose, puis la sensibilité, pourquoi pas, ou l'inverse. Il commence par choisir une sensibilité réceptrice, et puis il choisit un temps de pose, et puis il en déduit une ouverture de diaphragme, et puis une focale, etc. Ou dans un autre ordre encore, il travaille avec l'appareil qui a des capacités mécaniques qu'il ne machine pas, dont il ne fait pas l'économie. Et il ne fait pas ce travail-là dans une logique de profit. Je dirais que l'artiste photographe ne profite pas de sa technique, ne cherche pas à profiter de son appareil. Sauf s'il n'est artiste que par réputation, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il fasse toujours la même chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il rentre dans une habitude de travail qui, à ce moment-là, est une économie de travail. Il ne nous intéresse plus, à ce moment-là, en tant qu'artiste. Dans les dispositions mécaniques et artistiques auxquelles j'essaye de faire penser de manière générale. En tout cas, les opérations mécaniques, artistiques qui retiennent mon attention critique, il ne s'agit pas de projeter la mécanicité, il ne s'agit même pas d'aborder cette mécanicité dans un esprit de profit. Mon point de vue, sans doute, ne saurait être exactement compréhensible aussi longtemps que ne se déconnecteront pas dans nos esprits les deux perspectives que je vais dire, celle de l'utile, d'une part, et celle du profitable, d'autre part. Alors, ça, je ne sais pas si je peux faire entendre ça très rapidement. Je suis en train de faire avec les étudiants dont je m'occupe à Paris tout un travail là-dessus, sur une espèce d'archéologie, si vous voulez, de mots très, très simples comme utile, usage, utilisation, etc. Je suis très frappé de voir le sort de ce mot dans les textes de l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot, par où j'ai commencé cet exposé. Et cette façon d'assigner l'utile à l'avantageux. D'assigner l'utile au profitable, qui fait que quelque chose est utile dans la mesure où on peut en profiter. Et bien ça se discute. Ça se discute. Il y a toute une partie de l'histoire de nos idées nous échappe. On ne les comprend plus à partir du moment où on pense comme ça. Autrement dit, à partir du XVIIIe siècle, dans l'encyclopédie, il y a quelque chose qui s'énonce avec brio, etc., mais en même temps, il y a toute une série de choses qu'on cesse de pouvoir comprendre, notamment parce qu'on s'est mis dans la tête que utile et profitable, ça veut dire la même chose. Donc je demande qu'au moins, pour comprendre le plus largement possible un certain nombre de choses, on se sorte cette connexion de la tête. Si vous remontez à Aristote, obligé bien sûr, mais si on fait ce travail-là, si on veut essayer de comprendre par exemple ce que disaient les anciens sur la technique, je ne crois pas qu'on puisse comprendre ce que disait Aristote de la technique si on reste avec cette connexion moderne, celle des Lumières, entre l'utile et le profitable. Bien sûr, il faudrait que je sois rigoureux ici et que j'explique comment s'effectuent les traductions de textes. Mais je crois que l'utile chez Aristote est un mot qui est quasi synonyme de possible. Possible. Utile, est utile ce qui est possible, est utile ce qui n'est pas nécessaire. Ça, vous pouvez encore accéder à cette compréhension-là, je pense, que l'utile, c'est ce qui n'est pas nécessaire. Quelque chose qui est, c'est-à-dire seulement utile, est quelque chose dont, au fond, on peut se passer. Ça nous sert bien, si cette expression convient, et je pense qu'il faudra, peut-être j'aurai le temps de le faire tout à l'heure, la critiquer un peu, hein. Mais en fait, ce qui est utile est quelque chose qui pourrait éventuellement ne pas être auprès de nous. C'est juste utile, ça n'est pas nécessaire. Donc, l'utile et le possible ont le même champ de référence notionnelle. Donc, faire quelque chose qui soit utile, c'est faire quelque chose qui est possible. Mais pas forcément dans le registre du profitable. Et là, forcément, si j'ose dire, vous allez voir que je suis en train de parler de quelque chose comme une œuvre d'art. En tout cas, bien des œuvres d'art, bien des objets fabriqués qui sont restés dans notre mémoire sous le nom d'œuvres d'art, sont des objets dont on ne profite pas. Ce sont des objets possibles dont nous ne profitons pas. Et même, dans une certaine mesure, que l'humanité, dans son histoire, a mis à l'écart du profit possible. Je vais revenir sur cette expression, je conclurai par ça tout à l'heure, pour juste pouvoir les regarder. Juste pouvoir les avoir dans le regard. Juste ça. Et ça, c'est faire quelque chose d'utile. Et c'est pas forcément faire quelque chose dont on puisse profiter au sens économique du terme. Donc je pense quelque chose de très très important, un point très très important, qui est de déconnecter mentalement l'utile et le profitable. Pour justifier cette déconnexion, il faudrait évidemment faire un très très long travail philosophique dont tous les éléments dépasseraient évidemment le temps et la place qui sont disponibles pour moi ici ce matin. Je vais donc m'en tenir présentement à dire que la distinction, si vous voulez, entre une idée de la machine et de la à dire que l'idée de la machine et de la machination des opérations se lie à une position de principe qui inclut a priori le faire dans le profiter. La machine, la machination, la technicisation machinique, si vous voulez, des opérations, ou l'économie, toute cette économie de la technique repose sur le fait d'inclure a priori le faire dans le profiter, le mener à bien dans le profiter. J'aime beaucoup cette expression mener à bien. Mener à bien, ça veut dire mener à son terme. Et aussi, si vous la décomposez un petit peu dans votre esprit, ça veut dire faire un bien, produire un bien, mener à être un bien, quelque chose qui n'est pas nécessairement déjà un bien, qui n'est pas nécessairement, même éventuellement, déjà un fait. Inclure le mener à bien dans le profiter, je pense, si vous voulez que je résume globalement ma prise de position de ce matin, inclure le mener à bien dans le profiter, le faire quelque bien que ce soit dans le profiter, c'est ça la logique libérale historique. Et qu'il y a quelque chose qui appartient dans notre longue tradition aux arts mécaniques qui résiste à ça, à l'inclusion du faire dans le profiter, à l'inclusion du mener à bien dans le profiter. La position dominante libérale sur la machination des opérations techniques est une hypothèse quant à la technique. Ça n'est qu'une hypothèse quant à la technique qui est volontiers servie à nos esprits comme l'hypothèse même de la technique. Que être technicien, c'est savoir mettre à profit le monde, hein, si vous raisonnez comme ça. Dès que vous pensez comme ça, il y a quelque chose qui se ferme dans vos esprits de la liberté possible des conduites techniques. C'est ça que j'appelle l'inclusion du faire dans le profiter. Une hypothèse de la technique, une hypothèse dominante, pourquoi pas, de la technique, est volontiers servie, c'est le principe même de la domination, comme étant l'hypothèse même de la technique. Cette hypothèse dominante admet principalement, elle en fait un principe. Princeps en latin, ça veut dire le premier, hein, le point de départ. Et en même temps, ça veut dire l'éminent, le plus haut, etc. Une hypothèse, qui n'est pas exactement une thèse, c'est quelque chose qui est glissé dans les esprits avant même que ça soit explicité. Hypo en grec, ça veut dire par en dessous. Hein. Quelque chose qui passe par en dessous, qui passe en douce. Hein. Qui passe en douce dans nos esprits, ce qui est passé désormais dans nos esprits, c'est une hypothèse quant à la technique. Qui est prise pour une thèse sur la technique d'une manière générale, et cette hypothèse, elle admet principalement la technique comme moyen au service d'une fin. Autrement dit, si vous dites ça de la technique, vous dites en substance que la technique sert de moyen pour une fin, et même qu'elle est serve, c'est la même étymologie, hein, service, se servir, etc., et servus en latin, l'esclave. La technique est posée comme serve d'une fin, comme l'esclave d'une fin, comme moyen pour une fin. Elle est serve du service pour lequel elle a lieu. Ça, c'est l'hypothèse que je discute. Autrement dit, qu'il y a de la technique qui peut ne servir à rien. J'oppose à cette hypothèse dominante l'idée qu'il y a une technique qui n'est pas esclave du service qu'elle rend à telle ou telle fin. Si vous voulez que je sois très très concret, il n'y a rien qui m'agace plus que la phrase qu'on entend beaucoup dire, les artistes s'emparent d'une technique, et quand ils s'emparent d'une technique, elle deviendrait intéressante. Se s'emparer de, hein, se mettre la main, se servir de. Ouais. Les opérations techniques, les gestes, pourquoi pas, les gestes techniques ne sont pas nécessairement des gestes qui sont liés au fait de se servir de quelque chose comme moyen pour une fin. Ça, se servir de quelque chose comme moyen pour une fin, c'est une idée, une hypothèse de la technique qui domine notre idée de la technique, mais à laquelle elle ne se réduit pas. Une possibilité de la technique, une autre hypothèse, tend à se trouver interdite dans nos esprits, dominés par l'idée libérale de l'art, l'économie de la technique, enfin toutes ces choses que j'essaye de décrire comme finalement faisant système. Une autre possibilité de la technique tend à se trouver interdite dans toute cette affaire, c'est celle qui consisterait à se concentrer principalement, non pas sur la fin, non pas sur le profit envisagé ou escompté, non pas sur l'après, par conséquent, mais sur l'avec du faire. Avec quoi je suis en train de faire quelque chose. Pas pourquoi je suis en train de faire quelque chose, mais avec quoi. Il y a deux grandes hypothèses, autrement dit, de la technique. Une qui est concentrée sur la fin, je fais ça pour, je me sers de ça pour. Mais il y a une autre hypothèse qui tend à être interdite dans nos idées du principe de la technique, qui est que être technicien, c'est faire avec quelque chose. Le faire avec, je dirais juste pour voir. Faire avec quelque chose, juste pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Pas prédéterminer la fonction de ça. L'intéressant, selon l'un ou l'autre l'une ou l'autre de ces positions, l'intérêt ou l'intéressant est déplacé dans l'idée, dans le jugage comme ça, l'intérêt ou l'intéressant dans l'idée dominante de la technique est déplacé dès l'abord au principe du pendant vers l'après. Ce qui intéresse l'économie de la technique, c'est ce qu'il va y avoir après, le profit qu'on peut en tirer, l'usage qu'on peut en faire. Ce qui intéresse l'autre idée de la technique, c'est ce qui se passe pendant le fait de faire, pendant le travail, pendant l'opération. Dans l'idée dominante de la technique, les deux éléments que je viens en ce sens de désigner, l'effectuation et le travail, ces deux éléments, dans l'idée dominante de la technique, je vais y arriver, hein. Dans l'idée dominante de la technique, l'effectuation et le travail sont exclus d'avoir une capacité déroutante. La déroute de la ligne d'orientation qui va vers la fin est considérée comme non économique. Mutatis mutandis, justement, c'est ça qui est intéressant, par exemple, dans la façon dont Paul Klee décrit son travail. C'est le nombre de fois où il relève la façon dont son travail se menant a dérouté les idées qu'il avait. Donc vous avez deux positions. Hein. Est-ce que vous acceptez que votre travail déroute ce que vous envisagiez dès l'abord? Et d'ailleurs, est-ce que ce travail lui-même peut dérouter ce que vous envisagiez dès l'abord? Ou bien est-ce que la technique a été économisée tellement qu'il ne peut plus rien se passer de déroutant au cours du travail? La mise en chaîne dans une entreprise fordienne, par exemple, des opérations techniques, interdit qu'il y ait de la déroute pendant le travail. Des mobilisations de techniques, selon l'idée économique dominante, par exemple, qui aboutit à quelque chose comme une centrale nucléaire, interdit qu'il y ait de la déroute pendant le travail. Et il vaut mieux qu'il n'y en ait pas, étant donné les dangers qui sont impliqués. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que toute une autre façon de penser et de poser dès l'abord la technique nous est devenue, d'une certaine manière, étrangère. Hein. Celle qui consiste à dire que l'essentiel n'est pas dans la fin, mais dans le labeur. Dans la conception dominante de la technique, l'effectuation et le travail, la portée de l'effectuation et du travail sont restreints, sont limités, sont économisés. Nombre de machines, en effet, sont les résultantes de ce genre de restriction, de cette limitation, de cette économie. Je pense, pour ce qui me concerne, qu'à bien des égards, nous, c'est-à-dire le monde qui est le nôtre, nous sommes épuisés, désormais, par toute cette hypothèse de la technique que j'ai essayé de décrire. Je pense que nous en sommes là, nous sommes épuisés par cette hypothèse économico-libérale, si vous voulez, de la technique, et que nous pouvons trouver ressources que dans une autre façon, jusqu'à présent non dominante, il est vrai, d'avoir de la considération pour la technique, celle justement qui fait de la technicité un milieu avec lequel nos vies se dépassent en existence, celle qui fait de la technique non pas un moyen, mais un milieu avec lequel nos vies se dépassent en existence. Donc, je ne sais pas si je suis clair, enfin peut-être que des choses pourront se préciser en discussion, mais j'en suis là. Je pense que l'idée dominante de la technique est en train de nous épuiser et que si Cyril le rappelait dans son introduction, enfin, dans l'esprit peut-être de l'analyse heideggerienne, que je parle d'épuisement, c'est-à-dire finalement, on en est là. Les ressources sont en train de s'épuiser. Nos ressources sont en train de s'épuiser. Je pense que si on en est là, si on est parvenu à faire société sur de telles bases, c'est parce que nous avons négligé, au fond, le travail. Et au fond, nous avons négligé le travail. Nous ne considérons pas, d'ailleurs, le langage autour de nous, malheureusement, on parle fort. Ce qu'on entend beaucoup, et je ne sais pas si c'est un bon signe, hein, c'est paradoxalement, excusez-moi pour ce que je veux dire, mais en apparence, j'entends beaucoup parler d'emploi, mais pas beaucoup de travail. Hein. En fait, nous ne sommes peut-être plus en mesure, c'est pour ça que nous sommes épuisés, de concevoir un rapport à nos productions, à nos capacités de faire, qui nous mettent au travail, hein, qui fassent du pendant qu'on fait quelque chose de plus important que le résultat. Dans le monde du design et de la pensée du design, c'est un élément critique déterminant. Hein, c'est-à-dire, est-ce que finalement la tâche du design, c'est de penser à des usages, ce que je ne soutiens pas. Je pense que la tâche du design, ça consiste à s'intéresser à des factures, à des façons de faire, à multiplier éventuellement les façons de faire. Pour conclure, sur cette formule, l'idée, la technique comme milieu, et cette petite expression que j'ai dit au passage, la technique, c'est aussi ce grâce à quoi nos vies se dépassent en existence, ce ne sont plus simplement des vies d'êtres qui se servent, mais des vies qui deviennent véritablement des existences. Pour expliciter cette formule et ces enjeux, il y aurait, pour vos lectures, disons, deux directions possibles, à mon avis. L'une qui irait vers Simondon, hein, comme le disait tout à l'heure en introduction Cyril, pour éclairer ce que veut dire cette expression, la technique comme milieu, à considérer comme milieu plutôt que comme fin, hein, moyen pour une fin. Simondon pose en substance que la technique a des qualités intrinsèques. La technique a des qualités et que ces qualités sont intrinsèques à des conditions de possibilité, voilà. Si bien qu'elle n'est pas toute disponible. Je pense qu'il y a chez Simondon quelque chose de très intéressant d'aller chercher de ce type-là, que je pense que c'est un des points sur lesquels quelqu'un comme Bernard Sigler, qui a beaucoup lu Simondon, insiste de son côté beaucoup aujourd'hui, que, tu vois, j'évite l'expression de dire la technique a des lois. Hein. Je dis avec prudence, elle a des qualités. Les objets techniques ont des qualités intrinsèques qui sont liées à des conditions de possibilité sur lesquelles, au fond, les humains, individuellement considérés, en tout cas, n'ont pas la main, n'ont pas prise. Hein. La technique, je pense que Simondon la pense profondément comme étant un ensemble de possibilités qui ne sont pas absolument disponibles. Dire ça autrement, c'est dire il y a des qualités spécifiques, intrinsèques aux objets techniques. Et que finalement, travailler avec ces objets, c'est examiner ces qualités. C'est-à-dire que ce qui est premier, ce n'est pas ce qu'on veut faire avec ça, c'est quelles sont les possibilités de ça. Quelles sont les utilités au pluriel qui peuvent résulter de ça dès lors qu'on le met au travail? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un objet technique dès lors qu'on le met au travail? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une capacité technique de production dès lors qu'on la met au travail? Et pas qu'on la servit à une fin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile? Qu'est-ce qu'on peut faire de possible? Et dissocier le rapport à toute capacité de production de logique qui l'assimile à un ne pas pouvoir faire autre chose, à un ne pouvoir faire que ça, qui est le principe de l'économie. Économiser une technique, c'est dire cet objet ne sert qu'à ça. Voilà. Cette machine ne sert qu'à ça. Bon. Simondon aborde les objets techniques, je pense, dans une autre perspective, qui est celle de leur capacité au pluriel, de leur possibilité, et par conséquent de leur relative indisponibilité aux intentions de ceux que par ailleurs on dit être ceux qui s'en servent, ou les utilisateurs. Si la technique est disponible, c'est par économie, par alignement en direction d'un s'en-servir qui la domine. En tout cas, il est des techniques qui sont ouvertes à la demande dans leur usage même. On peut imaginer ça. Un appareil photo est un objet technique qui est ouvert à la demande dans son usage dès lors qu'il n'est pas automatisé, c'est-à-dire dès lors qu'il n'est pas traité comme une petite machine. Quand vous avez un appareil non machiné, non automatisé entre les mains, vous ne pouvez pas, je garde ce vocabulaire habituel, vous en servir sans vous demander à vous-même quelque chose. Qui sont les questions que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Par où je commence? Par choisir la sensibilité? Par choisir le cadrage? Par choisir le temps de pose? Par où je commence? Ça, c'est un objet intéressant, qui a des qualités intrinsèques, et qui se manifeste dans l'expérience que j'en ai, par le fait que je ne peux rien faire avec si je ne me demande rien quant à ce que je fais. Alors, la question est de savoir si nous nous proposons le plus grand nombre qu'il est possible d'objets techniques de ce type-là, qui se manifestent à nous par leur qualité relativement indisponible, et qui vont nous mettre en situation de nous demander ce qu'on peut faire avec ça. Ou bien, si nous sommes dans une logique de service, je me sers de ça sans me poser de questions. Finalement, l'objet serait d'autant plus pratique que je pourrais m'en servir sans rien me demander. Voilà l'aboutissement des deux logiques. Il me semble qu'on peut penser la distinction entre les deux à partir de Simondon. Dans un cas, la technique est un milieu, et si elle est un milieu, elle est nécessairement un milieu ouvert au questionnement du « faire avec ». Ou bien la technique est une fin, est finalisée plus exactement, la technique est finalisée, et dans ce cas-là, son idéal, c'est d'être effectivement quelque chose dont je sais pas, la perfection dans l'ordre de la commodité éloigne tout questionnement. Deuxième orientation pour comprendre la technique comme milieu, alors j'ai cherché évidemment à répondre le mieux que je pouvais à la demande qui m'était adressée, et puis à l'espèce d'écho à Heideggerien que j'entendais dans les demandes de Cyril et dans la façon dont il concevait, à mon avis, l'organisation de cette journée. Je pense que je fais un travail avec les étudiants dont je m'occupe à Paris qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire de relire au fond quelques textes de Heidegger, ce qui pour moi n'était pas une chose bien, parce que, dans le débat, s'il en est un objectivement entre les thèses de Benjamin et celles d'Heidegger, a priori, j'aurais consacré quand même pas mal de temps de mon existence intellectuelle à comprendre et à soutenir les engagements de Benjamin. Mais on peut peut-être lire ou relire Heidegger à partir d'une formule comme celle-là. Après tout, c'est une hypothèse quant à la technique, une hypothèse qui est peut-être une hypothèse de ressource pour nous aujourd'hui, de la considérer comme milieu et pas comme pratique finalisée. Le milieu technique, ça pourrait être... je dirais les choses autrement. Dans un cours que Heidegger a fait après la publication de Être et Temps à la fin des années 20, il lit à un éthologue, l'un des fondateurs de l'écologie moderne, qui s'appelle Uexküll. Voilà, il le lit, et en particulier, il lit les travaux de Uexküll sur les rapports des animaux à leur milieu. Et il montre qu'un milieu c'est, comment dire ça, je veux dire, c'est un espace dont justement pas, dans un milieu, il se produit des échanges entre ce qui s'appelle le milieu et un autre être qui s'appelle un vivant. Avec un milieu, on a des échanges. Mais dans les échanges que le vivant, aussi sommaire soit-il, par exemple, ou exclu, que lit Heidegger, est un de ceux qui nous a permis de comprendre la vie d'une tique animale extrêmement sommaire, qui n'existe que par des échanges complètement réglés avec son milieu, qui ne vit que selon des échanges extrêmement réglés avec son milieu, on pourrait dire, qui se réduit à être un milieu de service pour sa propre vie. Parce que l'analyse que fait Heidegger des textes de Weichkühl, en disant en substance quand même une existence humaine, ça ne se réduit pas à la vie d'une tique. L'analyse que fait, c'est-à-dire d'avoir des échanges de service avec son milieu. L'analyse que fait Heidegger, c'est de dire justement que les milieux humains attendent d'être pour l'humain autre chose que seulement des milieux de service. Et en substance, je vais vite, il appelle ça espace. Les milieux attendent d'être, de pouvoir être considérés par nous comme des espaces. Et la condition de possibilité du surgissement de la spatialité dans un milieu, c'est une quasi-citation que je vous donne, qu'il puisse y être vu des objets comme tels, qu'il puisse y être perçu quelque chose, quoi que ce soit, comme tel, c'est-à-dire, au fond, pour rien d'autre que être perçu. L'analyse que mène Heidegger, c'est que cet animal sommaire qui s'appelle une tique ne perçoit rien. Voilà. Elle est excitée éventuellement par le passage dans son milieu d'un animal dont elle a besoin pour vivre. Un animal à sang chaud et à fourrure sur lequel elle ne pourra pas ne pas s'empêcher de tomber pour aller lui sucer le sang, faire des petits et immédiatement après mourir. Donc on revient, si on décrit une vie comme ça, une telle vie n'est pas une existence. Donc une vie dans laquelle nous serions sollicités par des objets dont nous ne ferions que nous servir pour poursuivre nos propres vies. Ces vies-là ne sont pas des vies, sont pas des vies humaines. Et donc nous attendons qu'il nous soit proposé autour de nous des choses pour rien que nous pouvons percevoir comme telles. Voilà. Alors ça, je m'arrêterai là-dessus, je pense que c'est ça l'enjeu pour moi aujourd'hui. Je sais que je le formule d'une façon théorique très très générale, mais je peux éventuellement chercher des exemples en discussion si vous souhaitez. Je pense que l'enjeu de la relation art et technique, il est là. Et d'ailleurs, dans mon esprit, c'est le même enjeu pour le design, avec des conditions de variation qu'il faudrait préciser, mais globalement, je dirais que c'est la même chose. Je le formulerai comme ça, c'est de faire quelque chose au monde, de mettre au monde quelque chose, de faire naître, de mettre au monde, il y a une connotation d'accouchement, de naissance, hein, de mettre au monde, de faire naître des choses qui sont ouvertes à leur perceptibilité, au fait de pouvoir être regardées pour rien d'autre que pour ça. Peut-être que ces moments-là, où nous sommes sollicités par quelque chose pour rien d'autre, alors c'est la chose elle-même qui a des propriétés, c'est pas simplement moi qui décide de regarder un jour les choses pour elles-mêmes au lieu de m'en servir. L'analyse consiste à dire que c'est parce que les choses sont faites d'une certaine manière, mises au monde d'une certaine manière, là dans le monde, selon une certaine facture, que je peux, ou pas, regarder, se faire voir, et par conséquent, éveiller une conscience qui n'est, comment dire, qui n'est rempli, c'est pas le mot, mais qui n'a affaire qu'à ça. Voilà. une conscience qui est, dans le vocabulaire de Heidegger, on pourrait dire désœuvrée, enfin dans un vocabulaire proche de Heidegger, on pourrait dire désœuvrée ou désaffairée. Voilà, désaffairée. Regarder quelque chose comme tel, pouvoir voir quelque chose comme tel, en étant à distance des affairements, des intentions. Quand je suis affairé, quand je suis plein d'intentions, je ne suis pas au temps présent. Je suis toujours à plus tard, je suis toujours à tout à l'heure. C'est la logique dans le profit. Dans le profit, vous n'êtes pas à ce qui est en train de se faire. Vous êtes dans le calcul de ce que vous tirerez de ce qui est en train de se faire. Donc, pouvoir être présent à quelque chose. Donc, peut-être que l'humanité, épuisée par toute une économie de la technique, attend de pouvoir être à quelque chose. Et peut-être qu'elle attend des artistes qui lui permettent de voir, qui lui mettent au monde des